Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Vous savez bien que nombre de gens ne se reconnaissent plus dans la France et préfèrent s'enfuir au loin pour pouvoir y tenter leur chance. Votre république d'exclusion est une honte pour la nation, tout comme celle d'intégration qui va céder sous la pression. Vous n'avez point les armes qu'il faut pour pouvoir taire une conviction, ouvrant les vannes d'une folie que vous ne pourrez point contrôler. L'identité de tout un peuple ne peut s'écrire sur ce papier, même plastifié, les droits de l'homme ne pourront plus être protégés. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. La justice, qu'en pense-t-elle puisqu'elle ne peut point s'exprimer? Elle s'exécute convenablement sous la pression de l'Élysée, mettant en cause l'un des fondements de la structure démocratique. On interfère dans les affaires quand ces dernières deviennent critiques, usant des procédés injustes, des républiques bananières, comme un joker sorti de sa manche que l'on appelle raison d'État. Mais quand l'État manque de raison, c'est la balance qui penche et on se cache derrière s'injuste comme une femme sous la burqa. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Dans la chambre des députés, on appelle au dialogue de sourds, et sa chante et sa caquette pour être le coq de la basse-cour. C'est le bordel dans cette piole, faudrait penser à faire le ménage. La dernière fois que cela fut fait devait dater du Moyen-Âge. Chacun y va de son coup de gueule, donnant ses lois incohérentes. Mais commencer par s'écouter serait peut-être la base d'une bonne entente. Messieurs les députés de France, souriez donc, vous êtes filmés. Vous êtes devenus les nouvelles stars de cette France réalité. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France.
Canal Sud 92.2, bonjour tout le monde. Il est bien temps de revenir sur Contre-Histoire. Nous allons voir l'histoire actualisée du chômage à partir d'un ensemble de documents. Par exemple, Bastamag, avec l'article de Nolwenn Weiler. Mediapart, et n'hésitant devant aucun sacrifice, nous citerons même BFM TV. Avec en plus l'article très pointu du sociologue Adrien Clouet, doctorant-chercheur à Sciences Po. Alors on démarre avec Basta et Nolwenn Weiler. La réforme de l'assurance chômage est entrée en vigueur ce 1er novembre. 1 300 000 demandeurs d'emploi, dont les plus précaires, verront leurs indemnités baisser dans l'année qui vient. Les agents de Pôle emploi détaillent le nouveau système, véritable machine à fabriquer de la pauvreté. J'ai jamais vu ça, un tel durcissement. Aussi violent, confie une agente de Pôle emploi. L'objectif de la réforme, c'est d'économiser 3 milliards 400 millions d'euros d'ici fin 2021, avec une énorme pression sur les demandeurs d'emploi, considérés comme responsables de leur situation. Ces économies drastiques seront entièrement financées par les demandeurs d'emploi, et surtout les plus précaires, en intérim ou en CDD. La première étape, ce 1er novembre, qui durcit les conditions d'ouverture des droits à l'assurance chômage. La deuxième étape, au 1er avril 2020, avec réduction brutale des indemnisations. Au total, la moitié des personnes indemnisées, surtout celles qui n'ont pas pu travailler à plein temps pendant au moins un an, verront leurs droits réduits, voire supprimés. Soit 1 300 000 personnes, parmi les 2 700 000 qui bénéficient actuellement d'une indemnisation, et sur au total 6 millions de personnes inscrites au Pôle emploi. Réforme effrayante, confirme un conseiller. Il y aura une chute brutale des montants d'indemnisation pour celles et ceux qui ont des périodes de travail discontinues. Beaucoup vont rechercher le RSA. Le discours gouvernemental sur cette réforme est loin d'être adapté au tremblement de terre qui s'apprête. À Pôle emploi, on parle déjà de la possibilité de recruter des vigiles à partir du printemps, pour éviter les débordements d'allocataires révoltés. La ministre du Travail, en juin, avait annoncé une réforme contre la précarité. Le durcissement des conditions d'entrée à Pôle emploi permet d'en douter. D'avril 2020 à mars 2021, la moitié de la population percevant l'assurance chômage verra ses revenus diminuer. Pour un tiers, soit 850 000 personnes. L'indemnité baissera de 22%, c'est-à-dire de 900 à 700 euros. Pour un demandeur d'emploi sur 10, 280 000 personnes, l'allocation diminuera d'un quart, de 900 à 680 euros. Enfin, 7% des chômeurs parmi les plus précaires, 190 000 personnes, perdront carrément la moitié de leurs droits au chômage et devront survivre avec 431 euros par mois au lieu de 868. En attendant une nouvelle mission d'intérim. On orientera les plus précaires vers les emplois pénibles et mal payés. Pôle emploi prévoit d'embaucher 1 000 000 de CDD pour, selon les syndicats, orienter les précaires et chômeurs mal indemnisés vers les offres d'emploi non pourvues depuis plus de 30 jours, concernant souvent des emplois pénibles et mal payés. À ces candidats qui perçoivent des indemnités ridicules, voire pas d'indemnités du tout, on va dire « ça tombe bien, on a des postes difficiles à pourvoir », les fameux emplois à déficit d'image. Dans notre bassin d'emploi, par exemple, on a une cafétéria qui est une vraie lessiveuse à salariés, raconte un conseiller. Tout le monde le sait, personne ne veut y aller. La direction va nous dire « Pourquoi vous ne proposez pas ces offres ?» Et ils vont dire aux demandeurs d'emploi « Vous avez validé des compétences en vente, la restauration, c'est la même chose. Allez hop !» Face à ces pressions qui visent à faire accepter n'importe quoi, les demandeurs d'emploi ne sont pas égaux. Certains pourront se permettre de refuser les annonces trop pourries, parce qu'ils ont un bagage intellectuel, des relations. Ils connaissent leurs droits et ont confiance en eux. Et ceux qui ne sauront pas se défendre, qu'en sera-t-il? Est-ce cela le but? Que les gens aient à se défendre contre Pôle emploi? Est-ce juste? Maintenant, un petit tour sur Mediapart. Vous êtes toujours sur Canal Sud. La ministre du Travail, à France Inter, le 22 octobre, a aligné, raccourci, demi-vérité, voire mensonge pur et simple. Certes, les chiffres du chômage sont encourageants. Après suppression des fins de droit, des stagiaires en formation et des travailleurs à quelques heures hebdo ou mensuelles. Le ministère indique une baisse des inscrits à Pôle emploi catégorie A, B et C en chute de 0,4% sur un trimestre et de 1,9% sur l'année. Mais selon l'UNEDIC d'avril 2020 à mars 2021, les droits au chômage baisseront pour la moitié des 2 600 000 citoyens indemnisés. Le prix sera colossal pour les demandeurs d'emploi, en particulier les plus précaires. Les nouvelles règles économiseront plus d'un milliard d'euros en 2020, 2 milliards 200 millions en 2021 et 2 milliards et demi en 2022, alors que le projet ne comptait en moyenne que sur 1 milliard 300 millions d'économies annuelles. Une tuerie. On va passer d'un système d'indemnisation du chômage à un système d'accroissement de la pauvreté, estime Laurent Berger de la CFDT. À la ritournelle gouvernementale des emplois non pourvus, Adrien Clouet, chercheur à Sciences Po en sociologie, objecte. Y a-t-il assez d'offres d'emploi pour tous les chômeurs? Peut-on alors leur imputer la responsabilité de leur propre chômage? Combien d'offres faut-il pour occuper un chômeur? Peut-on s'appuyer sur les bases de Pôle emploi pour mesurer le nombre des offres d'emploi non pourvues? L'enquête « Besoins en main-d'œuvre » de Pôle emploi indique en 2017 que 7,5% des établissements essayant de recruter n'y sont pas arrivés par manque de candidats dans 16% des cas. Dans l'écrasante majorité des cas, plusieurs candidats se sont manifestés, mais n'ont pas été retenus. Ailleurs, le besoin avait disparu, ou les moyens financiers n'étaient plus disponibles. L'enquête ne révèle pas les infractions, fausses offres d'emploi, ou les offres qui proposent des conditions de travail très mauvaises, voire illégales. Salaire sous le SMIC, heures non payées, heures de nuit, horaires discontinus, etc. En 2017, 111 000 offres n'ont pas été pourvues, dont 18 000, soit 16% par manque de candidats. D'après Pôle emploi, qui accueille un peu plus d'un tiers des offres en circulation, le reste allant aux petites annonces, réseaux professionnels, intérim, etc. Les trois tiers donnent donc l'estimation de 333 000 offres non pourvues pour toute l'économie nationale. Ces offres auraient-elles pu occuper 333 000 chômeurs? Non. Car il faut retrancher les offres à temps partiel qui nécessitent d'en occuper plusieurs, et les CDD qui requièrent d'en enchaîner plusieurs dans l'année. Le marché de l'emploi français est-il constitué d'individus rétifs au travail? Les statistiques montrent le contraire. En 2017, les employeurs ont fait 23 800 000 déclarations d'embauche, dont 17 millions de moins d'un mois. Les offres non pourvues, au pire, ne représentent qu'environ 1% des emplois pourvus, donc 99% des projets de recrutement réussissent. La difficulté est l'exception. La réussite est la règle. que représentent 333 000 offres non pourvues dans la population sans activité. Il y a 6 millions d'inscrits à Pôle emploi, dont 3 400 000 sans aucune activité actuelle. Les offres d'emploi non pourvues représentent donc moins de 10% de la quantité de chômeurs sans activité, soit une offre d'emploi non pourvue pour 10 ou 11 chômeurs. Il y a donc 333 000 offres pour 3 400 000 chômeurs. Si les chômeurs dénichaient toutes les 333 000 offres d'emploi non pourvues au coin de la rue, en changeant de métier, en renonçant à toute qualité d'emploi, pour n'importe quel salaire, il en resterait toujours quasiment 90% sans emploi, soit plus de 3 millions.
Thank you.
Laurent Neumann de BFM TV a décompté les offres d'horticulteurs supposées par Macron et en ligne sur Pôle emploi, qui indique 193 offres correspondantes dans toute l'Île-de-France. Un emploi serait-il donc disponible pour le jeune chômeur interpellé par le président, ainsi que pour 192 de ses collègues? Pas vraiment. D'abord, les 193 offres agrégées par Pôle emploi sont proches de l'horticulture. Elles concernent, par exemple, des emplois d'enseignants en production horticole. Annonce pas forcément proposée à un horticulteur au chômage. Mais admettons, parmi ces 193 offres, 113 CDI. Les autres sont des offres d'intérim ou des CDD. 15 jours, 3 mois, etc. Il faut donc successivement 4 ou 5 de ces offres pour occuper une seule personne à l'année. Toutes ne constituent donc pas un moyen de quitter le chômage. Parmi les 113 CDI, 40 garantissent un exercice à temps plein. 15 sont à temps partiel. Un chômeur qui en occupe un peut encore être à la recherche d'un autre emploi. Donc, deux emplois sont parfaitement nécessaires pour occuper une seule personne au même moment. Pour 58 offres, on n'indique aucun renseignement concernant le temps de travail. Ces 193 offres en horticulture ou approchant correspondent finalement à 40 emplois pérennes à temps complet, répartis de manière bien inégale. 14 dans les Yvelines, 3 en Seine-Saint-Denis et dans le Val-de-Marne, et 2 dans les Hauts-de-Seine. L'interpellation du chômeur par Emmanuel Macron est donc infondée. Le chômage n'est pas affaire de volonté individuelle qui se résoudrait en traversant la rue. Il y a un vrai déficit d'emploi au niveau national. La sortie d'Emmanuel Macron traduit une double opinion. Elle délégitime, elle discrédite l'action publique contre le chômage. Chômage présenté comme le résultat du choix des chômeurs. Elle conduit à la multiplication des travailleurs pauvres en plaidant pour n'importe quel emploi plutôt que le chômage. Politique menée dans plusieurs pays anglo-saxons et qui a conduit en Allemagne à une progression spectaculaire de la pauvreté laborieuse. En attendant, le marché de l'emploi continue de se rétrécir. Au dernier trimestre 2017, on comptait 105 000 créations d'emplois et 12 000 seulement au deuxième trimestre 2018, après la coupe des contrats aidés. Traverser la rue ne constitue pas vraiment la réponse à cet effondrement des embauches. La ministre prétend que face à un marché du travail très dynamique, il faut que les demandeurs d'emploi se responsabilisent. 700 000 offres d'emploi sont là, disponibles tout de suite, selon Muriel Pénicaud, offres recensées sur le site de Pôle emploi. Chiffre impressionnant, balayé par toutes les recherches sérieuses, et que le sociologue Adrien Clouet analyse en rappelant qu'outre la répétition de certaines offres, la plupart ne correspondent pas à un temps plein. Et ces offres ne sont que 16% à ne pas trouver de candidat.
Trust in me, in all you do. Have the faith I have in you. Love will see us through. If only you trust in me. Why don't you trust me? Come to me. to me, Daddy. Oh, yeah, and I'll be strong. We can get along, we can get along. Oh, if only you trust in me. While there's a moon on high. Whoa, there are birds, birds to fly. While there is you, you and I can be sure that I love you. Oh, stand beside me, all the while. Come on, Daddy, face the future. Why don't you smile? Trust in me, and I'll be worthy of you. Oh, yeah, yeah. Why don't you trust in me, and all you do, and have the faith I have in you. Oh, and love will see us through. If only you trust in me. Yeah, yeah, yeah. Why don't you come to me when things go wrong? Cling to me and whoa, and I'll be strong. We can get along, we can get along. Oh, if only you trusted me. Yeah.
Vous êtes toujours sur Canal Sud. Nous continuons à étudier la réforme du chômage. À partir de ce 1er novembre 2019, il faut donc avoir travaillé 6 mois sur une période de 24 mois, et non plus 4 mois sur 28 comme hier. Tout ça pour avoir droit à l'allocation de chômage. Selon l'UNEDIC, les nouvelles conditions d'affiliation et de ce qu'on appelle le droit au rechargement toucheront environ 710 000 personnes entre novembre 2019 et octobre 2020. Ceux et celles qui cumulent de courtes périodes de travail seront plus impactés que les autres, puisque peinant davantage à réunir le nombre de jours de travail nécessaire. Et le mode de calcul des indemnités journalières sera sévèrement durci à partir d'avril 2020. Quand un demandeur d'emploi retrouve du travail, ses allocations chômage s'arrêtent. Mais avant Macron, s'il se retrouvait ensuite au chômage, elles lui étaient de nouveau versées. Avant la réforme, travailler ponctuellement pendant une période d'indemnisation permettait de prolonger ou de recharger ses droits. Un mois travaillé suffisait à recharger ses droits, d'autant. Une personne qui avait droit à indemnité de janvier à juin, par exemple, et trouvait un travail pour le mois de mai, avait ses droits prolongés jusqu'à fin juillet. Ce mécanisme était incontestablement bénéfique pour les chômeurs, puisqu'il incitait à trouver un travail, même court et peu rémunéré. Mais c'est fini! Il faut aligner maintenant 6 mois de salariat minimum pour avoir droit à des indemnités. Il s'agit en fait d'une quasi-suppression du droit rechargeable. Le nouveau système ne vous donne droit à une allocation qu'à partir de 6 mois de travail. Les CDD, les intérimaires, ceux qui travaillent en mi-temps thérapeutique, les plus fragiles, sont en première ligne. Si une personne est en mi-temps thérapeutique, on calcule sur la base du salaire payé, soit un demi-salaire. Le gouvernement se défend. La durée d'indemnisation sera plus longue et donc les indemnités versées équivalentes. Ah ben oui, mais si on n'a pas assez pour vivre, pendant 6 ou 12 mois, le problème est le même. La mesure concerne principalement les allocataires qui auront comme motif de fin de contrat de travail une fin de CDD ou de mission d'intérim pour ouvrir le droit à indemnisation. Donc, les plus précaires vont assumer les plus gros efforts, les restrictions les plus pénalisantes sur leur vie.
C'est la première et la dernière fois qu'on pourra te faire un cadeau comme ça. Il était une fois, il était une fois, mais pas deux. C'est la dernière fois qu'on te donne des bras et des yeux. C'est la dernière. C'est la dernière et pas de rattrapage. Il était une fois, il était une fois, mais pas deux. Rate pas la fortune, tu ne pourras, ne pourras pas dire que c'est pour des prunes, que ça ne compte, ne compte. Ton bonheur, tu ne pourras pas dire que c'est pour du beurre, que ça ne compte pas. Il était une fois, il était une fois, mais pas deux. Rate pas ta jeunesse, tu ne pourras, ne pourras pas dire que tu en la prochaine fois. Y'a pas de prochaine fois, une fois mais pas deux. Y'a pas de prochaine fois à ce petit jeu. Il était une fois, il était une fois mais pas
Vous êtes encore sur Canal Sud et c'est toujours contre-histoire. Histoire du chômage. Nouvelles règles de calcul et énorme baisse possible des indemnités. Au lieu d'être définie, comme depuis 40 ans, à partir d'une moyenne des salaires versés aux salariés pour les jours travaillés pendant un an, les indemnités seront maintenant calculées à partir du revenu mensuel moyen, qu'il ait travaillé ou non, et sur une période pouvant aller jusqu'à 2 ans. Le nouveau mode de calcul fera chuter les droits de 850 000 nouveaux chômeurs de 22% en moyenne. La facture sera particulièrement salée pour les 190 000 personnes qui auront travaillé moins de la moitié du temps de la nouvelle période de référence de 2 ans, portée à 3 ans pour les plus de 50 ans. Leur allocation mensuelle moyenne, déjà faible, baissera de 50%, passant de 868 euros à 431 euros. Ainsi, Nadia, salariée ayant travaillé un mois et demi pendant 2 ans, pour 1 425 € net par mois travaillé, ce qui est le profil classique des allocataires de Pôle emploi. Avant la réforme, Nadia aurait touché pendant un an 1 065 € mensuels, somme proche de la moyenne des 1 010 € versés chaque mois par Pôle emploi aux demandeurs d'emploi indemnisés. Après la réforme, Nadia touchera seulement 705 €, mais pendant 2 ans. Cette allocation amputée d'un tiers peut durer 2 fois plus longtemps. C'est ce qui permet au gouvernement de défendre sa réforme. Car si le chômeur ne retrouve pas de travail jusqu'au bout des 2 ans de droit, le total qui lui aura été versé à la fin de la période sera plus élevé qu'avant la réforme. Le principe est à la fois cruel pour les petits salaires de base qui ne donneront lieu qu'à une faible indemnité. Mais qui, si le salaire de base est plus élevé, pourrait décourager l'allocataire de chercher du travail pendant la période d'indemnisation, ce qui est contraire au but recherché. Mais les chômeurs veulent travailler, et selon l'UNEDIC, seuls 44% des demandeurs d'emploi indemnisés vont au bout de leur période d'allocation. En moyenne, ils ne consomment que 68% de leurs droits avant de sortir de chômage. Et la situation de certains pourra être bien plus difficile dès avril 2020. Par exemple, 2 personnes en CDD dans une entreprise en surchauffe provisoire ont le même salaire, 1 521 € brut par mois, soit 50 € par jour. Sur un an, la première a un CDD de 6 mois en continu. La seconde travaille également 6 mois, mais en 2 CDD de 3 mois, l'un en début et l'autre en fin d'année. Selon les anciennes règles de calcul, chacune aurait eu ensuite droit à une allocation de chômage de 940 euros par mois pendant 6 mois, soit 30 euros par jour, c'est-à-dire le salaire mensuel perçu multiplié par le coefficient d'indemnisation. Car la période de référence pour calculer les indemnités était la même que la période travaillée. Ça, c'était avant. Dans le nouveau calcul, celui qui a travaillé en continu conserve son allocation de 30 euros par jour. Son indemnité est calculée sur la durée de son contrat. Mais son collègue, avec ses 2 CDD, ne percevra que 15 euros par jour, soit 470 euros par mois, parce que la période de référence prise en compte ne sera plus la période travaillée. Les 2 CDD totalisant 6 mois en tout, mais ça sera la période sur laquelle s'étalent les contrats, donc une année entière. La base de calcul du montant de l'indemnité sera donc le salaire de 6 mois de travail divisé par 12. Résultat, 50% de pénalité pour les travailleurs en période discontinue. Autre exemple, cas combinant plusieurs modifications dues à la réforme et résultats désastreux. Daniel a travaillé 2 mois au SMIC, puis il a été au chômage pendant 18 mois, avant de travailler à nouveau 4 mois. Hier, l'allocation de Daniel aurait été calculée sur la moyenne de ses salaires touchés durant les 4 mois précédents, puisqu'il suffisait de 4 mois de salaire pour ouvrir les droits au chômage. Il aurait pu percevoir 936 euros par mois pendant 6 mois. Depuis la réforme, il aura besoin de 6 mois de travail et subira un calcul englobant 6 mois de travail et 18 mois non travaillés. Résultat, allocation de 282 euros pendant 2 ans. Là encore, après la réforme, le capital versé théorique total des droits sur 2 ans est plus élevé, environ 1 200 euros de plus. Mais ce n'est pas avec par mois 282 euros qu'on paye son loyer et qu'on se nourrit. La réforme sera encore plus redoutable pour les chômeurs de plus de 53 ans. Pour eux, la durée de la période de référence n'est pas de 2 ans, mais de 3 ans. Une différence destinée à laisser plus de temps à cette population fragile pour accumuler les salaires nécessaires à l'ouverture de leurs droits. Mais si un salarié de plus de 53 ans étale sur 3 années pleines ces 6 mois de travail nécessaires à l'ouverture de ses droits, le revenu moyen retenu pour calculer son allocation sera encore diminué d'un tiers par rapport à celui de Daniel. On divisera la somme des salaires des 6 mois par 36. Autre effet pervers à noter. Le nouveau dispositif pourrait pousser certains à optimiser leurs mois de travail afin que leur salaire journalier moyen soit le plus élevé possible. Par exemple, ils pourront éviter de prendre un travail rémunéré sur une courte période s'ils craignent de connaître ensuite une longue période sans activité, voire ils pourront s'arranger avec leur employeur pour que les feuilles de paye couvrent plusieurs mois consécutifs même si ça ne correspond pas à la réalité. Phénomène paradoxal, alors que la réforme doit enrayer ces comportements supposés exister aujourd'hui. Et la DARES, le service statistique du ministère du Travail, montre que seuls 6% des chômeurs sont actuellement susceptibles de se livrer à de telles pratiques. pour beaucoup, fin du cumul entre chômage et période d'emploi. La modification des règles de calcul du salaire journalier de référence cache une autre très mauvaise nouvelle pour les travailleurs précaires. Dès le 1er avril, il sera bien plus difficile de cumuler petits boulots et allocations. Le gouvernement attend de cette mesure 1 milliard d'économies sur la période 2021-2022. Malgré son incohérence, avec sa supposée priorité à l'emploi, et alors qu'elle vise les plus précaires. Hier, si un demandeur d'emploi retrouvait un job moins payé que son travail antérieur, Pôle emploi continuait à l'indemniser partiellement. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Si un chômeur touche une indemnité de 500 euros et retrouve un boulot, payé 400 euros, là où il aurait touché hier 220 euros d'allocation chômage en plus de son petit salaire, ça ne sera plus possible avec la réforme.
Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from the world. The rain's new fall, sunlit from heaven, like the first dew fall on the first grass. Praise for the sweetness of the wet garden, sprung in completeness where his feet pass. Mine is the sunlight, mine is the morning, born of the one light, Eden saw play. Praise with elation, praise every morning, God's recreation of the new day. Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from the world.
Canal Sud 92.2, on continue contre histoire. Sarah a travaillé un mois et demi pendant 2 ans pour 1425 euros mensuels. Puis elle a retrouvé un petit boulot à mi-temps, rémunéré 730 euros. Pendant qu'elle touche l'allocation chômage, elle aurait, hier, pu cumuler son nouveau salaire et une allocation de Pôle emploi, ramenée à 385 euros par mois. Avec la réforme, c'est fini, car son nouveau salaire brut, dépassera tout juste le plafond de 75% du salaire journalier de référence, à partir duquel toute indemnisation complémentaire est interdite. Des cas de ce type se multiplieront fatalement. Ils seront d'autant plus difficiles à justifier qu'ils concerneront une population fragile. En mars, l'UNEDIC avait dressé le portrait de ces allocataires qui travaillent. Près de 9 sur 10 vivent dans un ménage dont le niveau de vie est inférieur au niveau de vie moyen. Et 40% des ménages concernés par ce cumul emploi-chômage vivent sous le seuil de pauvreté. Et les plus hauts salaires sont aussi largement touchés. La réforme prévoit que les salariés ayant touché un salaire de plus de 4500 euros bruts verront leur allocation chômage diminuer de 30% à partir du 7e mois de chômage. La mesure sera en vigueur pour toutes les ruptures de contrat intervenues après le 1er novembre, ce qui signifie que les premières baisses d'allocation interviendront à partir du mois de mai. François touchait 4500 euros net par mois avant de perdre son job. Sans la réforme, Pôle emploi lui aurait versé 3056 euros par mois pendant 2 ans maximum. Après la réforme, il n'aura plus droit qu'à 3056 euros pendant 6 mois, puis 2085 euros durant 18 mois suivants, soit une baisse d'un quart de ses droits s'il va au bout de la période d'indemnisation, ses 2 ans d'allocation. Ce principe de dégressivité est refusé par tous les syndicats, CGT comprise, et battu en brèche par l'immense majorité des études, dont celle de l'Office français des conjonctures économiques, rappelant fin 2017 que la dégressivité des allocations est tout sauf efficace. Les diverses modalités de la réforme en cours et ses conséquences immenses témoignent d'une reprise en main jamais vue du régime d'assurance chômage par l'État. C'est la fin d'un pilotage conjoint en vigueur depuis 1958 par le patronat et les syndicats qui s'étaient entendus pendant des décennies sur les règles et les modifications à apporter. Ce changement total de philosophie, le montant des allocations chômage pouvant être désormais défini chaque année par arrêté ministériel, ce changement de philosophie n'est pas une surprise, mais la conséquence directe des dispositions contenues dans la loi sur l'emploi et la formation, votée en août 2018. Le financement de l'assurance chômage a changé de nature. Aujourd'hui, les salariés ne se voient plus prélever sur leur salaire aucune cotisation chômage, cotisation qui alimentait jusqu'à présent les caisses de l'UNEDIC. Désormais, ce sont les salariés, mais aussi les retraités et certains chômeurs qui contribuent à financer les allocations chômage via la CSG, contribution sociale généralisée, impôt directement versé à l'État qui ensuite en dispose à sa guise. Fini le modèle assurantiel. Chaque salarié versait une partie de son salaire pour s'assurer contre le chômage. Aujourd'hui, l'État décide quelle part de son budget doit être affectée au financement du régime, y compris en réduisant drastiquement les allocations pour certaines catégories. Une fois actées, ces réductions majeures des allocations auront-elles un impact positif? Pousseront-elles réellement ceux qu'elles visent à retourner à l'emploi, comme le souhaite la ministre du Travail? Et cet emploi sera-t-il durable? Le sociologue Didier de Mazières analyse le contrôle des chômeurs et plus largement les effets des mesures d'activation des demandeurs d'emploi, dont la réduction des allocations est un exemple criant. Le sociologue indique que les mesures d'activation aboutissent bien à une accélération des sorties du chômage. mais à quelles conditions? Les demandeurs d'emploi risquent d'accepter des emplois de très faible qualité, des contrats de très courte durée, avec des temps de travail très limités et évidemment des salaires très faibles. Ou bien, tout simplement, ils peuvent se retirer du marché du travail, faisant certes baisser le taux de chômage apparent, mais pas le taux de chômage réel. Contrairement au dire de Muriel Pénicaud, l'acceptabilité des petits boulots est déjà très grande chez les chômeurs. Quand ils s'inscrivent à Pôle emploi, ils sont plus de 90% à déclarer vouloir un contrat à durée indéterminée et à temps plein. Mais près de la moitié acceptent des emplois temporaires de courte durée et à faible temps de travail. User de contraintes, c'est affirmer qu'il y a des abus en nombre, qu'il faut sévir pour les réduire. Idée en contradiction complète avec ce conseil des demandeurs d'emploi et de leur comportement, résume le sociologue. Que feront les exclus de l'indemnisation? Combien demanderont le RSA? Combien de ceux qui ne peuvent plus cumuler petits boulots et allocations toucheront la prime d'activité, alors qu'ils n'y avaient pas toujours droit avant? Situation critique. Alors que l'exécutif lance une concertation sur la réforme des minima sociaux, qui pourrait, elle aussi, aboutir à diminuer les allocations versées aux plus pauvres.
Passez notre amour à la machine, faites-le bouillir pour voir si les couleurs d'origine peuvent revenir. Est-ce qu'on peut avoir à l'eau de Javel des sentiments, la blancheur qu'on croyait éternelle avant? Pour retrouver le rose initial de ta joue devenue pâle, le bleu de nos baisers du début, tant d'azur perdu. Passez notre amour à la machine, faites-le bouillir pour voir si les couleurs d'origine peuvent revenir. Est-ce qu'on peut avoir à l'eau de Javel des sentiments, la blancheur qu'on croyait éternelle avant? Matisse, l'amour, c'est bleu difficile, les caresses rouges fragiles, le soleil de la ville est tabasse. Et alors, elle passe. Allez, à la machine. Le rouge pour faire tomber la misère de nos gentils petits grands-pères, noirs les mains dans les boucles blondes, tout autour du monde. Passez notre amour à la machine, faites-le bouillir pour voir si les couleurs d'origine peuvent revenir. Est-ce qu'on peut avoir à l'eau de Javel des sentiments, la blancheur qu'on croyait éternelle avant? Allez,
Le pouvoir cherche à mettre le pays sans dessus-dessous, en lançant la police contre le peuple, contre les immigrés, les réfugiés et contre les chômeurs. Ce pouvoir a trouvé la recette en lançant ceux qui ont encore du travail contre ceux qui n'en ont plus, et vice-versa. Mais il n'avait pas prévu qu'au lieu de déclencher la guerre civile, il allait créer des passerelles entre les plus souffrants, les plus pauvres, ceux qui l'étouffent dans les prisons, et les autres qui découvrent aujourd'hui cette misère extrême qui peut frapper chacun d'entre nous. On a inventé le délit de solidarité, mais la solidarité a la peau plus dure que n'imaginait le pouvoir. On en reparle bientôt, on en reparle le deuxième mercredi de décembre. D'ici là, prenez soin de vous. À bientôt.
Après que les poètes ont disparu, leurs chansons courent encore dans les rues. La foule les chante un peu distraite en ignorant le nom de l'auteur, sans savoir pour qui battait leur cœur. Parfois on change un mot, une phrase, et quand on est à court d'idées, on fait la 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 la. Longtemps, longtemps, longtemps après que les poètes ont disparu, leurs chansons courent encore dans les rues. Tristes, filles et garçons, bourgeois, artistes ou vagabonds.